comme on dit dans Astérix chez les Bretons, il va être l'heure. Je vais parler aujourd'hui de Hugo, comme j'ai annoncé la semaine dernière, et en particulier de son poème à Albert Dürer, un poème de 1837, publié dans Les Voix intérieures, également de 1837. Je commencerai par le lire. Albert Dürer. Dans les vieilles forêts où la sève à grands flots court du fût noir de l'aulne au tronc blanc des bouleaux, bien des fois, n'est-ce pas, à travers la clairière, pâle, effaré, n'osant regarder en arrière, tu t'es hâté, tremblant et d'un pas convulsif, ô mon maître Albert Dürer, ô vieux peintre pensif. On devine, devant tes tableaux qu'on vénère, que dans les noirs taillis, ton œil visionnaire voyait distinctement, par l'ombre recouvert, le faune aux doigts palmés, le sylvain aux yeux verts, Pan, qui revêt de fleurs, Nantes où tu te recueilles, et l'antique dryade aux mains pleines de feuilles. Une forêt pour toi, c'est un monde hideux. Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux. Là se penchent rêveurs les vieux pins, les grands ormes dont les rameaux tordus font sans coude difformes, et dans ce groupe sombre agité par le vent, rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le cresson boit, le court, les frênes sur les pentes, sous la broussaille horrible et les ronces grimpantes, contractent lentement leurs pieds noueux et noirs. Les fleurs, au cou de cygne, ont les lacs pour miroir. Et sur vous qui passez et l'avez réveillé, maintes chimères étranges à la gorge écaillée, d'un arbre entre ses doigts serrant les larges nœuds, du fond d'un antre obscur fixe un œil lumineux. Ô végétation, esprit, matière, force, couverte de peau rude ou de vivante écorce. Ô bois, ainsi que toi, je n'ai jamais erré, maître, sans qu'en mon cœur l'horreur ait pénétré, sans voir tressaillir l'herbe et par le vent bercé pendre à tous les rameaux de confuses pensées. Dieu seul, ce grand témoin des faits mystérieux, Dieu seul le sait, souvent, en de sauvages lieux, j'ai senti, moi qu'échauffe une secrète flamme, comme moi, palpiter et vivre avec une âme, et rire et se parler dans l'ombre à demi-voix, les chênes monstrueux qui remplissent les bois. Je lis toujours les poèmes que je vais commenter pour que vous vous les remettiez en mémoire, mais aussi parce que ça me fait un plaisir immense. Je sens un énorme privilège à pouvoir lire un poème de Victor Hugo. Il s'agit cette semaine, évidemment, de l'être, de la nature, et de comment concevoir ou créer ou recréer cet être, ou plus spécifiquement, comment Hugo le conçoit et le crée. Notons d'abord quelques petits détails. Un poème est fait de détails, syllabe par syllabe. D'abord, le vieux, où, dans le premier vers, les vieilles forêts. Au sixième, Dürer, qui est un vieux peintre. au deuxième vers l'antique dryade et au quinzième les vieux pins. Et notons en passant, il ne s'agit pas simplement de passer, que dans le premier vers, le mot vieille remplace le mot sombre que Hugo avait écrit au départ, dans les sombres forêts où la sève à grands flots. Très beau vers. Hein. Et s'il l'a changé, c'est évidemment parce qu'il veut que l'adjectif vieille soit présent dès le premier vers. Notons aussi au douzième vers l'antique dryade, l'expression extrêmement intéressante, qui signifie d'abord, évidemment, la dryade qui appartient à l'Antiquité, aux vieilles fables, aux vieux mythes, mais qui a aussi pour effet d'enlever à la dryade toute sa sexualité. Une antique dryade, même si c'est une dryade de l'Antiquité, signifie aussi une antique dryade. Ce qui est curieux, non pas comique, comme je vous ai un peu induit en erreur, c'est curieux, puisque en général, les poètes masculins peuplent les forêts, les bois, etc., de formes féminines appétissantes. Et c'est pour cela qu'existent sans doute les dryades, les oréades, les ondines et toutes les autres nymphes. Alors qu'ici, le faune, le sylvain et pan sont des figures masculines, la dryade est antique et la chimère est un monstre, lion, chèvre et dragon. Il n'y a absolument pas de présence féminine attirante dans ces forêts qui sont au contraire hideuses, vers 13. Mais notons surtout que pour trouver l'être, on plonge d'abord dans le vieux. On peut remarquer aussi le contraste entre le noir et le blanc. Encore une fois, il faut noter certains détails. Au vers 2, le fût noir des aulnes. Au vers 8, les noirs taillis. Au vers 21, les pieds noirs des frênes. Au vers 9, l'ombre. Au vers 37, l'ombre. Le deuxième vers et l'avant-dernier vers parlent de noir et d'ombre de façon symétrique. Au vers 17, sombre. Au vers 26, l'antre obscur. Et par contraste avec cette série de mots, au vers 2, le tronc blanc du bouleau, au vers 3, la clairière, 4, le visage pâle de Dürer, au vers 22, le coup de cygne des fleurs, qui n'est pas forcément blanc, mais on ne peut pas ne pas voir la blancheur d'un coup de cygne, les miroirs, au même vers, et au vers 26, l'œil lumineux de la chimère. Alors, pourquoi ? Il ne s'agit pas simplement de dire, tiens, il y a beaucoup de noir et il y a beaucoup de blanc. Pourquoi ? D'abord, me semble-t-il, peut-être que c'est évident, pour créer l'effet d'une gravure. Le poème s'adresse après tout à Dürer, et le poème lui-même est une sorte de gravure sur bois. Où on voit les noirs et les blancs, ou les pâleurs, les clairières, les passages un peu plus pâles, disons. C'est une gravure un peu comme les gravures de Dürer, avec une petite pointe verte. Au vers 10, les yeux verts du sylvain. Je ne sais pas si Hugo y pensait. J'aimerais bien le croire, parce que je suis sûr qu'il voyait plus loin que moi. C'est une petite pointe de couleur qui termine en quelque sorte, l'œuvre. Un peu comme la petite touche de rouge dans certains tableaux de Corot. Mais la question suivante à poser, c'est évidemment, pourquoi la gravure ? Pour faire plaisir à Dürer, ok, en hommage à Dürer, mais pourquoi une gravure ? Et une première raison à donner serait peut-être que c'est une façon de rendre le mystère de la forêt et de l'être. Tout devient une sorte de gravure, j'y reviendrai. Et puis, associer un vieux peintre, les vieilles forêts et les vieilles figures mythologiques, où l'adjectif « vieux » change à chaque fois de sens, revoir les forêts dans la perspective de la gravure, c'est les remplir de pensées. Et c'est précisément ce qui fascine Hugo. Hugo contemple les forêts pensives. Et Dürer est non seulement un peintre pensif, c'est un peintre dont les œuvres sont remplies de pensées, et quelqu'un qui voit dans les forêts un mélange de songe et de réel, au vers 14. Hugo voit la pensée dans les forêts, il voit plus précisément, vers 32, pendre à tous les rameaux de confuses pensées. On peut penser d'abord à un autre poème de Hugo, le poème « À Virgile », qui est le poème 7 des voies intérieures. Notre poème est le poème 10, donc Hugo a mis les deux poèmes près l'un de l'autre. Un poème à Virgile, qui est tout à fait différent du poème à Albert Dürer, j'y reviendrai aussi, où à un moment, Hugo, s'adressant à Virgile comme dans ce poème-ci, il s'adresse à Dürer, dit « Pour toi qui dans les bois fais, comme l'eau des cieux, tomber de feuille en feuille un vers mystérieux. Tomber de feuille en feuille un vers mystérieux. » Dans notre poème, « Pendre à tous les rameaux de confuses pensées. » Notons que « pendre » et « tomber » sont des détails concrets, même très concrets. On voit des idées, des pensées comme des présences sur des arbres. Et que dans « À Virgile », on a l'idéal d'une poésie épousant parfaitement le réel. Tomber de feuille en feuille un vers mystérieux semble signifier que dans la poésie de Virgile, ce que remarque Hugo et ce qu'il veut pour sa propre poésie, c'est que les présences de la nature deviennent en quelque sorte des poèmes, et les poèmes de Virgile sont en quelque sorte des présences de la nature. La terre et la poésie se marient, s'épousent. C'est l'idéal d'un réel devenu en quelque sorte poésie, à cause du fait que notre poésie, j'allais dire l'envahit, c'est précisément le verbe qu'il ne faut pas utiliser. Notre pensée se marie au réel. Et dans Albert Dürer, c'est la vision des pensées qui, en quelque sorte, émanent des arbres, comme des fruits ou des feuilles, d'où le verbe « pendre ». Et notons aussi la différence de ces expressions où le concret et l'abstrait se joignent de façon tout à fait mystérieuse. D'ailleurs, dans le vers que j'ai cité du poème à Virgile, le mot « mystérieux » est présent. Il n'y a qu'un vers mystérieux qui puisse tomber parmi les feuilles d'un arbre, notons la différence avec le vers de La Fontaine que j'ai cité la semaine dernière dans L'Hirondelle et les petits oiseaux. Voyez cette main qui par les airs chemine. La Fontaine et Hugo recréent, disons, le réel d'une façon semblable, mais de façon aussi très différente. De deux façons différentes. On peut penser donc à un autre poème de Hugo. On peut penser aussi à un poème de Baudelaire, je ne sais pas si vous y avez pensé. Pendre à tous les rameaux de confuses pensées devrait faire penser au début des correspondances de Baudelaire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Les confuses paroles sont évidemment basées sur les confuses pensées de Hugo. C'est Baudelaire qui imite Hugo, bien sûr. Il l'imite très certainement, et les vivants piliers de la nature sont bien sûr les troncs des arbres. Baudelaire reprend la vision chez Chateaubriand d'une forêt comme une sorte d'immense cathédrale où les troncs des arbres sont les colonnes, les piliers. Je note en passant que dans Hugo, heureusement pour Baudelaire et pour nous, de confuses remplacent d'ineffables. À l'origine, il avait écrit « pendre à tous les rameaux d'ineffables pensées », que la deuxième version est supérieure. Et Baudelaire, dans son essai sur Hugo, parle précisément de Hugo comme le poète des analogies et des correspondances. Il est tout à fait certain que Baudelaire, en imitant la pensée de Pythagore et des pythagoriciens, imite en particulier ce poème de Hugo. Hugo cherche néanmoins à distinguer entre ce que l'on imagine dans les forêts et le mystérieux qui s'y trouve réellement. Voyez ce que je veux dire. Il parle de pan, de sylvain, etc., auquel, de toute évidence, il ne croit pas de façon simple. Il ne croit pas qu'il existe dans les forêts des nymphes et des faunes. Et lorsqu'il parle de la chimère, il dit « Vous qui passez et l'avez réveillé ». Vous est intéressant parce que ce n'est pas Dürer. Il ne s'adresse pas à Dürer. Il tutoie Dürer. Vous, c'est tout le monde, c'est nous, c'est Hugo. Vous qui passez et l'avez réveillé. Le premier sens est évidemment, vous êtes passé près de la chimère dans la forêt et elle dormait, elle s'est réveillée en entendant le bruit de vos pas. Mais le deuxième sens, beaucoup plus intéressant et plus profond, c'est, me semble-t-il, qu'en passant dans la forêt obscure et un peu inquiétante, vous suscitez la chimère par la pensée, par le rêve, par la peur. Vous la faites exister par ce qu'il y a en vous. Ou, moi, Hugo, je la fais exister par ce qu'il y a en moi. Et quel est, pour Hugo, le statut des faunes, des chimères ? Sa façon d'en parler est très curieuse. Ce poème n'est évidemment pas un poème pastoral, comme au XVIIe, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le dernier moment où on trouve cette espèce de nostalgie qui fait peupler les bois et les champs de la France au XVIIIe siècle, de faunes et de nymphes, etc., comme une sorte de désir de réenchanter le monde naturel. Il se peut très bien que la poésie pastorale et survécu si longtemps, précisément parce que les gens sentaient que quelque chose, peut-être la science moderne, qui abonde, avait désenchanté le monde et qu'une des façons de le réenchanter, c'était de retrouver cette mythologie, disons païenne, gréco-romaine, qui a cette faculté merveilleuse de peupler le monde de créatures extrêmement attirantes. Ce n'est pas un poème pastoral dans ce sens-là, ce n'est pas non plus un poème anti-pastoral, comme on écrivait dans la génération de Wordsworth. Je pense en particulier aux poètes anglais, Wordsworth par exemple, qui écrit des poèmes où il y a de vrais bergers et la vraie campagne anglaise, ou à Crabbe. George Crabbe, un poète dont je n'ai pas du tout parlé, me semble-t-il, dans les cours sur le génie de la poésie anglaise, encore un grand qui a échappé au filet, Crabbe qui, dans Le Village, parle des vraies conditions, en réalité misérables, des gens de la campagne anglaise au tournant du siècle XVIIIe, etc. Ce n'est pas un poème pastoral, ce n'est pas un poème anti-pastoral, c'est une vision du Nord, de la mythologie gréco-latine, la mythologie gréco-latine vue par le Nord, comme chez Dürer, où les faunes, etc., sont dangereux, menaçants, comme dans la mythologie germanique et dans la mythologie nordique, les gnomes et les trolls. C'est une vision de l'horrible vers 20. Et Hugo associe les créatures mythologiques, sinistres, avec Dürer. Il ne s'engage pas nécessairement dans la même croyance. Et il appelle ce que vous voyez, ce qu'il voit lui, une chimère. Et curieusement, il met plus de vers à parler de la chimère que du faune, du sylvain, de Pan et de la dryade. C'est une vision évidemment qui l'intéresse, qu'il explore. Et ce choix d'une chimère peut vouloir dire que c'est cette imagination d'une mythologie gréco-latine, etc., n'est que chimérique dans l'autre sens du mot. En français moderne, car le vrai monstre pour Hugo, c'est évidemment la forêt même. En un sens, on n'a pas besoin de faune et de chimère. La forêt elle-même est déjà monstrueuse et en quelque sorte fabuleuse. D'où le dernier vers, les chênes monstrueux qui remplissent les bois. Ce sont les chênes qui sont des monstres. On peut écarter les faunes, etc., comme produit de notre imagination. Mais on ne peut pas écarter les chênes. Et le verbe « remplisse » semble signifier que nous n'avons pas besoin de faunes. Les chênes remplissent la forêt de leur forme monstrueuse. Dans Les Misérables, Hugo revient aux forêts pleines de menaces et de mythologies anciennes pour dire ceci. Une réalité chimérique apparaît dans la profondeur indistincte. On voit flotter dans l'espace ou dans son propre cerveau on ne sait quoi de vague et d'insaisissable, comme les rêves des fleurs endormies. Il y a des attitudes farouches sur l'horizon. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, belle expression, les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements obscurs, pardon, des échevellements obscurs. J'ai fait une liaison mal à propos. Mystérieux, d'effrayants torses d'arbres, de longues poignées, les êtres inconnus possibles, etc. On pourrait croire que Hugo, homme raisonnable comme vous et moi, parle simplement de la façon, disons, primitive de vivre la forêt, où la peur des gens est telle qu'ils inventent des espèces de divinités terrestres pour incarner leur peur. Mais il continue, les forêts sont des apocalypses. Les forêts sont des apocalypses. Et apocalypse signifie d'abord, évidemment, révélation, c'est le sens du mot en grec. Les forêts sont des révélations, les forêts révèlent en particulier le monstrueux. Non pas simplement le monstrueux des forêts, mais le monstrueux en soi. Et il se peut bien aussi qu'il pense à un deuxième sens qu'on a donné au mot, que le mot n'a pas en lui-même, le sens de fin du monde. Vous savez que du fait que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, et qu'il y ait question de la fin du monde, le mot Apocalypse signifie très souvent, de façon un peu populaire, je suppose, mais enfin voilà, la fin du monde, comme apocalyptique, signifie quelque chose qui annonce la fin des choses. Le film Apocalypse Now joue sur ce sens-là. Et il se peut bien que Hugo aussi pense que dans la forêt, on a le sens du monstrueux et le sens de que le monde est fini et qu'on est en quelque sorte dans les forêts à la fin du monde. Hugo semble un peu repousser ces vieilles croyances, le faune, la chimère, etc. Mais ils sont néanmoins la force de ces présences surnaturelles. Le vers le plus sinistre du poème est peut-être le vers 11. Pan, qui revêt de fleurs l'antre où tu te recueilles. Au moment même où Dürer se recueille dans un antre dans la forêt, à son insu, Pan arrive et tout doucement revêt l'antre de fleurs. C'est sinistre, me semble-t-il. En anglais, je dirais « weird »,« spooky ». Je ne sais pas si nous avons plus de mots en anglais qu'en français pour dire la chose. Nous sommes, après tout, des gens du Nord, des gens de la forêt germanique. Et ce vers aussi a pour moi un frisson nouveau. Vous connaissez l'expression de Hugo dans une lettre à Baudelaire où il le félicite d'avoir créé dans certains de ses poèmes dédiés à Hugo ce que Hugo appelle un frisson nouveau. Et Hugo a absolument raison. Mais je ressens personnellement un frisson nouveau dans ce vers. Nouveau parce que je ne l'ai pas rencontré ailleurs avant Hugo dans la poésie française. Ensuite, Albert Dürer représente une des perspectives des voies intérieures, et encore une fois, on aurait pu penser qu'il y a d'autres perspectives, que dans ce poème, Hugo joue en passant avec la vieille mythologie, mais que dans d'autres, il s'en éloigne. Et on peut en effet relire à Virgile pour voir que la perspective est tout à fait autre. C'est un poème où Hugo s'adresse à mon maître divin, comme dans Albert Dürer, il appelle Dürer mon maître, et on lit des vers comme « J'ai trouvé, mon poète, une chaste vallée, à des coteaux charmants, nonchalamment mêlés. Un beau vers que j'ai complètement massacré. J'ai trouvé mon poète, une chaste vallée, à des coteaux charmants, nonchalamment mêlés. Et on se dit, oui, c'est une autre vision de la forêt. N'insistons pas trop sur la forêt monstrueuse. Ensuite, on continue de lire et on trouve ceci. Nous irons dans ce vallon sauvage et de la solitude rêveur, nous surprendrons la secrète attitude dans la brune clairière où l'arbre au tronc noueux prend le soir un profil humain et monstrueux. Comme on dit, même dans un poème où il crée une sorte de poésie pastorale, finalement, il parle d'une chaste vallée. Il parle d'une chaste vallée parce qu'il y va avec sa maîtresse. Même dans ce poème-là, il sent la nécessité, vers la fin, de voir dans la même vallée un vallon sauvage et des chiens monstrueux à force de ressembler à l'homme. Notons aussi, à Albert Dürer, qu'en réfléchissant au mystère de la vieille mythologie, Hugo écrit, vers 33, « Dieu seul, ce grand témoin de faits mystérieux, peut comprendre, etc. » C'est une façon d'imaginer Dieu. Aristote, quand il pense à Dieu, quand il imagine un être suprême, pense que Dieu est une sorte d'Aristote infini. Qu'Aristote vit par la pensée et Dieu, c'est la pensée. Hugo, réfléchissant au mystère, pense que Dieu est le mystère. C'est l'être absolu qui a le secret du mystère. Le mystère de l'être de la nature se perd en quelque sorte dans le mystère encore plus profond de l'être de Dieu. Mais il dit aussi Dieu seul, ce grand témoin des faits mystérieux. Même dans ce vers où, en quelque sorte, il rejette toute la responsabilité sur Dieu, c'est pas exactement cela, mais vous voyez ce que je veux dire, il dit que Dieu est le témoin des faits. Le mystère est un fait. La monstruosité est un fait. Hugo s'émerveille devant le monstrueux qui fait partie de l'être, devant Dieu qui contient le monstrueux. Et c'est évidemment romantique. Encore une fois, c'est quelque chose où Hugo va au-delà de La Fontaine. Je ne dis pas que Hugo soit un meilleur poète à ce niveau-là, sur ces hauteurs-là, on ne peut évidemment pas juger. Mais il va au-delà de La Fontaine, comme Wordsworth va dans le même sens, au-delà de Pope. Mais quel est le moment où le poème atteint la vision que Hugo cherche? Il me semble que c'est au vers 18. Rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le sens du vers en surface, c'est évidemment que le monde végétal ne semble pas être simplement végétal. Il y a quelque chose dans le monde autre que des arbres, des fleurs, etc. Mais ce monde n'est pas humain non plus, évidemment. D'où les anthropomorphismes qui suivent, le cresson bois, l'eau court, etc. Il y a un deuxième sens. Les faunes, les chimères n'existent pas, ne sont pas tout à fait, mais ne sont pas abolies non plus, parce que notre imagination revient constamment à l'idée que les forêts sont en quelque sorte peuplées par des êtres. Mais le sens profond, me semble-t-il, c'est qu'il y a dans les forêts une altérité qui échappe à nos catégories. Elle n'est ni morte, vivante. Ce n'est ni la mort, ni la vie. Nous n'avons pas de mots pour la décrire. C'est autre chose. Et c'est cela que Hugo rencontre, le monstrueux, une autre sorte de vie. Et je remarque que le vers, qui est extrêmement simple, presque exclusivement monosyllabique, il contient même 12 mots, et où il y a juste suffisamment de rythme et de forme pour maintenir l'élan du poème, que ce vers figure dans un passage ajouté après coup. Tout le passage qui va du vers 13 au vers 28, le plus long passage du poème, a été écrit après le moment où Hugo pensait avoir terminé le poème. C'est l'exemple parfait du fait que le poète, en écrivant, découvre, souvent à la fin, souvent après coup, parfois en sentant que le poème qu'il a terminé n'est pas achevé, qu'il y a encore autre chose que le poète veut dire, que le poème veut dire. Et dans ce passage, il trouve surtout de quoi il est question dans son poème, cette catégorie de l'être qui n'est ni la mort, ni la vie. Il est intéressant aussi de noter que c'est l'exemple parfait du fait que Hugo n'est pas un poète didactique dans ses meilleurs poèmes. Et la personne qui l'a vu, c'est Hugo. C'est Baudelaire. Baudelaire, dans son essai sur Hugo, dit « Qu'est-ce que c'est que poésie didactique ?» C'est raconter en vers les lois connues, selon lesquelles se meut un monde moral ou sidéral. Alors que chez Hugo, dit-il, il y a ce que Baudelaire appelle la rêverie. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais il y a une rêverie sur l'être. Il n'y a pas un didactisme qui se contenterait simplement de dire ce que le poète sait déjà. Quand un poète découvre, il ne fait pas une poésie didactique, qui est, comme dit Baudelaire, la plus grande ennemie de la véritable poésie. Ok. Deuxième moment, il découvre l'être monstrueux de la nature. Pourquoi l'explorer dans un poème? Pourquoi ne pas écrire en prose? Parce que cette monstruosité est néanmoins une grande unité. Un autre sens du vers 2, évidemment, c'est que l'on va du noir au blanc, d'un extrême à l'autre, et que la poésie peut créer ou recréer cette unité. Les 100 coudes des armes sont difformes, vers 16, mais Hugo rassemble tout dans sa propre forme. D'où un autre sens du fait que le poème ressemble à une gravure. C'est un hommage à Dürer, bien sûr, mais c'est aussi une façon d'organiser le poème en noir et blanc, en pâleur, en clairière. Et c'est aussi une façon de créer la nécessaire distance. Le poème lui-même est empli de poésie. Il y a aussi, dans le poème, une certaine musique, pour passer dans un autre art. Il n'y a aucune allusion à la musique. Mais quand on lit le poème, on voit que Hugo, musicien, s'y donne à cœur joie. Vers 2, « Cours du fût noir de l'aune, au tronc blanc des bouleaux, l'eau. » Vers 7, « Dans les vieilles forêts, où la sève à grand flot, le premier vers, dans le vers 7, on devine devant tes tableaux qu'on vénère, etc. À lire le poème, on entend une musique, et un étranger, ne connaissant pas le français, serait, je crois, enchanté par la musique naturelle du poème. Le poème bien lu est en lui-même une musique. Il faut noter aussi la profondeur du travail des mots. Au vers 24, par exemple, « Mainte chimère étrange ».« Mainte chimère étrange ».« Main » est un mot très littéraire, bien sûr. Un mot élégant. Un mot élégant au moment où il parle des larges nœuds d'un arbre et d'une gorge écaillée. Mais l'expression elle-même est, à sa façon, monstrueuse. Le mot « chimère » est d'origine grecque. Le mot est entré en français par le latin, mais son origine est bien sûr grecque. Le mot « étrange » est d'origine latine. Le mot « main » est d'origine gauloise ou germanique. Les spécialistes ne le savent pas, mais son origine est obscure, gauloise ou germanique. Autrement dit, l'expression est une parfaite mise en abîme du poème. L'expression elle-même est monstrueuse dans le sens exact du mot chimère. Le corps de l'expression « mainte chimère étrange » est fait de trois choses différentes. Hugo savait-il que l'expression était monstrueuse? S'occupait-il de l'origine des mots à ce point-là? Au fond, je n'en sais rien. J'aimerais bien le penser. Il s'occupait de pratiquement tout, après tout. Il est vrai que, poète en français et en anglais, je suis sensible à l'origine des mots. Je veux toujours savoir d'où viennent les mots que j'emploie, parce que l'origine des mots nous fait remonter vers le passé. Les mots charrient un passé immense. Et peut-être que je lis ce que Hugo n'écrivait pas. Si c'est le cas, alors c'est un petit cadeau que je suis heureux de pouvoir lui offrir. Et je note aussi que au vers 13, le mot « hideux » est probablement d'origine germanique, comme il convient d'ailleurs, en parlant à Dürer et en parlant des forêts sinistres, pour Hugo, de l'Allemagne. Et au dernier vers, le mot « bois », qui est d'origine germanique, c'est le mot « bochèche » dans le conte du Graal, que j'ai commenté, je crois, la semaine dernière, le mot « bois », d'origine germanique, remplace, dans le premier vers, le mot « forêt », d'origine latine. Et le mot « chêne » vient d'un mot latin, « cassanus », pris aux Gaulois. Les Romains ont pris beaucoup de mots aux Gaulois, qui sont ensuite venus en français. Mais l'origine ultime de ces mots est gauloise. Autrement dit, au moment même où Hugo souligne le monstrueux de l'être des forêts, dans son dernier vers, il retrouve le sol des Allemands et des Gaulois. Et puis, troisièmement, n'existait-il pas une couche plus profonde au poème? Hugo, en même temps qu'il parle de l'être de la nature, ne parle-t-il pas aussi de l'être du moi? Comment Hugo s'engage-t-il dans le poème? Il s'engage avec la chimère qui vous regarde, ou qui le regarde. Il parle au vers 8 de l'œil visionnaire de Dürer, qui voyait distinctement dans l'ombre le faune et le sylvain. L'œil lumineux de la chimère, dans son antre obscur, regarde Hugo. Autrement dit, dans ce passage ajouté au poème qu'il avait pensé terminer, Hugo renverse le regard. Il ne s'agit plus d'un artiste qui, par son œil visionnaire, regarde quelque chose dans l'ombre. Il s'agit de la chimère qui, dans l'ombre, regarde par son œil lumineux Hugo. C'est un moment très intéressant où le poème regarde le poète, la forêt regarde celui qui écrit sur la forêt, le mythe regarde celui qui écrit sur le mythe. Et la syntaxe très compliquée de ce moment semble traduire l'intérêt de Hugo et peut-être aussi une sorte d'inquiétude, même de peur de Hugo devant ce regard. Vous voyez la syntaxe compliquée, les inversions, la subordonnée, qui a pour but de différer le mot essentiel. Et sur vous qui passez et l'avez réveillé, maintes chimères étranges à la gorge écaillée d'un arbre entre ses doigts serrant les larges nœuds du fond d'un antre obscur, fixe un œil lumineux. Il écrit bien, le père Hugo. Il me semble que c'est évident, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de critiques qui mettent en doute le côté artistique de Hugo, comme si, bon, c'était un génie universel, d'accord, mais hélas, comme disait Gide, Hugo écrit extrêmement bien, et quand il manie la syntaxe, c'est toujours pour une raison pensée et pour une raison profonde. Et ici, on passe de « sur vous » fixe un œil lumineux. C'est très dramatique. Et c'est dramatique, non pas simplement parce que Hugo veut écrire un beau poème où il retarde, il fait différer le moment dramatique. C'est dramatique parce que le moment est dramatique. Hein, ce n'est pas une sorte de poésie décadente où on fait des effets pour faire des effets. Le moment est dramatique parce que tout d'un coup, Hugo est regardé. La complication n'est pas arbitraire. Le regard est d'autant plus sinistre à cause de la syntaxe compliquée. Et ce regard que l'on jette sur les chimères et que les chimères jettent sur nous incite à relire en profondeur certains passages, surtout la fin. J'ai senti, moi qu'échauffe une secrète flamme, comme moi, palpiter et vivre avec une âme les chaînes monstrueuses. D'abord, comme moi, palpiter. Encore une fois, en surface, cela signifie que les chaînes semblent vivre comme des hommes. Ils rient, ils se parlent. Mais en profondeur, cela signifie, à mon sens, les chaînes palpitent comme moi. Il existe une affinité entre les chaînes et moi, plus qu'une correspondance, en fait. Une affinité entre les chaînes et moi. Nous palpitons ensemble, pour ainsi dire. Juste au moment où il parle des chaînes monstrueux. Et puis, moi qui chauffe une secrète flamme. Il répète moi, moi qui chauffe, comme moi, comme s'il, à ce moment-là, il était conscient du fait qu'il parle non pas vraiment de la forêt, mais de Victor Hugo. Moi qui chauffe une secrète flamme, dans un autre poème, dans un autre contexte, aurait pu avoir un sens très simple. La secrète flamme serait l'inspiration, hein, la secrète flamme des poètes romantiques, et on serait en présence de l'orgueil tout à fait légitime d'un grand poète de cette génération-là. Dans le contexte, ce n'est pas du tout cela. Comme les arbres ont une vie secrète, tellement secrète que nous ne la comprenons pas et ne la comprendrons jamais, comme les arbres ont une vie secrète, moi aussi, j'ai une vie secrète. Il existe en moi, c'est-à-dire en Hugo, une altérité, D'où la métaphore, la flamme. Il n'emploie pas une métaphore simplement parce que, eh bien, c'est ce que l'on fait quand on est poète. Il emploie une métaphore précisément parce qu'il ne peut pas dire exactement ce qu'il y a en lui. Quand un poète dit qu'il y a en moi une flamme, c'est précisément parce que il n'y a pas de nom pour décrire ce dont il s'agit. Il y a une métaphore parce que Hugo est devant non seulement l'altérité de l'être des forêts, mais devant l'altérité de l'être de Hugo. Et la signification des mots devient un peu sinistre. La secrète flamme qui l'échauffe est un peu sinistre, et encore une fois, on éprouve, me semble-t-il, un frisson nouveau. C'est pas exactement Baudelaire. Hugo a raison de voir chez Baudelaire quelque chose de tout à fait original, mais il y a aussi une originalité certaine dans ce poème de Hugo. Il y a aussi probablement une autre couleur. La secrète flamme fait penser évidemment au rouge. Il y a une sorte de pointe rouge avec la pointe verte. Autrement dit, en étudiant l'être en dehors de lui, il découvre son être. En contemplant l'altérité des forêts, de la nature, il découvre sa propre altérité. En s'ouvrant au monstrueux de la nature, il découvre le monstrueux en lui-même. Il n'est pas surprenant qu'il ait invoqué Dieu à un moment, qui est le témoin de ces faits mystérieux. Et combien de fois un poète, lorsqu'il écrit à une certaine profondeur sur n'importe quoi en dehors de lui-même, se trouve en train de mieux se découvrir. Je pense que c'est probablement toujours le cas, en fait, mais que la plupart du temps, le poète n'écrit pas sur lui-même. Il se contente d'écrire son poème et ensuite de réfléchir sur ce qu'il a découvert sur lui-même en écrivant le poème. Mais de temps à autre, un poète pris, pour ainsi dire, en flagrant délit, revient sur lui-même et parle de lui-même. Et Hugo le fait, me semble-t-il, d'une façon particulièrement délicate, discrète. Quand on pense à Hugo, on pense au grand Hugo. Victor Hugo qui, comme Gide le dit, se prenait pour Victor Hugo. Mais très souvent, Hugo atteint une sorte de discrétion, une sorte de modestie de poète. Je ne parle pas de l'homme Victor Hugo, que je n'ai pas rencontré. Il m'aurait écrasé. Mais le poète Hugo est souvent, dans l'acte poétique, humble. Et il se parle de lui-même de façon indirecte. Il faut vraiment lire et relire le poème pour voir que c'est un poème en partie sur l'être de celui qui écrit. C'est peut-être une autre raison de s'adresser à Dürer. Hugo se trouve en contact avec la nature, les forêts, mais aussi avec l'art. Dürer, il l'appelle après tout mon maître. Dürer est le maître qui l'initie à cette façon d'être et à cette inconnaissance de soi. Où Hugo va plus loin que Villon. J'ai parlé de Villon dans un cours précisément sur l'être du poète. Et il faut dire que Hugo va plus loin que Villon. Ça ne signifie pas que Hugo soit un meilleur poète que Villon, comment juger? Ça signifie simplement qu'il a trouvé quelque chose que Villon n'a pas trouvé. Et peut-être qu'il s'adresse à Dürer aussi pour se rassurer. Dürer et quelqu'un d'autre qui semble avoir senti cette secrète flamme, cette palpitation, cette monstruosité, cette vie autre qui habite le moi. Bon, je m'arrête là. La semaine prochaine, je parlerai de Nerval et je parlerai du poème le plus célèbre de Nerval, El Desdichado. que tout le monde a commenté, mais à propos duquel il reste peut-être quelque chose à dire. Je vous remercie.